Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous recevons notre confrère et ami Claude Boschurberg, auteur de l'essai La brisure de la coque, une transmission éthique du dire dans l'œuvre de Lévinas qui reparaît aujourd'hui chez CD Éditions. Bonsoir Claude.
Bonsoir Sandrine.
Alors, il est vraiment pas utile de vous présenter ici sur cette antenne. Vous êtes ici chez vous. On sait que vous présentez depuis toujours, j'allais dire plusieurs années.
1981.
Oh là, oui. Mémoire et vigilance, que vous êtes par ailleurs responsable de la page mémoire d'actualité juive. Et puis vous avez de nombreuses casquettes, dont l'une est d'être ostéopathe,
psychosomaticien
voilà. Et puis également enseignant. Oui. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur les thématiques qui vous sont chères, l'ostéopathie et la mémoire. Et votre actualité, c'est donc la réédition de l'essai « La brisure de la coque » ou une transmission éthique du dire dans l'œuvre de Lévinas qui reparaît chez CD Éditions. Alors de quoi s'agit-il ? Ce n'est pas un ouvrage de plus consacré à la pensée d'Emmanuel Lévinas, c'est plutôt un essai sur ce que la fréquentation quotidienne de l'œuvre d'Emmanuel Lévinas a connu comme résonance sur le lecteur assidu que vous êtes. Et l'angle de réception n'est pas n'importe lequel. Il s'agit de la dimension éthique. Un message délivré par le philosophe qui vous habite, vous le soignant et le témoin des témoins de la plus grande tragédie du XXe siècle. En ce sens, vous devenez le relais, le porte-voix d'un message philosophique fondamental, l'importance de cette question éthique. Déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi une première brisure de la coque et pourquoi aujourd'hui sa réédition ?
Alors, mais pas tout simplement parce que l'ouvrage était épuisé. Et puis, comme vous le dites, Sandrine, en fait, l'objectif de cet essai, c'était une question que je me posais, c'est-à-dire, est-ce que la lecture quotidienne, et je pèse mes mots, la lecture quotidienne d'un auteur comme Lévinas, et comme on le sait, le philosophe de l'éthique, est-ce que cet auteur est capable de nous changer quelque part ? Est-ce que, à travers l'absorption, en quelque sorte, de ces textes, je peux devenir meilleur ? Entre guillemets. C'est une question que je pose. Tout au long de l'essai, je n'ai pas une véritable réponse, puisqu'il y a un chapitre à la fin où je dis « il est capable de nous mettre en chemin ». Mais est-ce que la lecture d'un texte est suffisante pour nous convertir d'une manière pratique ? Ça reste encore, je dirais, un point d'interrogation.
Alors, Emmanuel Lévinas, le philosophe le plus emblématique du XXe siècle, j'ajouterai l'épithète de juif, l'adjectif juif. Alors, on le sait, celui qui a introduit en France la phénoménologie husserlienne, son maître qu'il a rencontré à Fribourg, Heidegger qui prend la suite de son maître lorsque celui-ci prend sa retraite, oui. Et par sa thèse de doctorat d'Emmanuel Lévinas, on connaît cette pensée allemande en quelque sorte, et puis la Shoah, cette meurtrissure de l'histoire avec... Oui. Toute sa famille qui disparaît, restée en Lituanie par la Shoah par balle, et puis sa femme et sa fille qui se cachent, la rencontre avec son maître Shushani, et là, un dialogue, une dialectique entre ses connaissances de philosophe et oui. La sagesse juive. Et c'est ce qui est très intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous mettez en avant eh bien, cette dialectique toujours inquiète entre la tradition philosophique et la sagesse juive. Et est-ce que c'est ça qui vous intéresse?
Alors, oui, c'est ça qui m'a intéressé parce que, en fait, il faut savoir que, bon, comme vous le dites, Lévinas avait introduit la pensée de Husserl, qui est donc le courant phénoménologique. Et à sa suite, bien sûr, il faut le savoir, Heidegger, qui était aussi le disciple d'Husserl. Le problème est le suivant, c'est que, en fait, si dans la phénoménologie, on reste intangiblement sur une notion d'être, eh bien, l'être pour l'être, au fond, ça peut conduire à une certaine violence. Or, et c'est là la rupture, c'est qu'à un certain moment de la vie de Lévinas, et du reste, vous l'avez magnifiquement démontré dans votre propre ouvrage, Sandine, à travers Fascinant Shushani, c'est que cette rencontre qui va se faire, eh bien, va faire quitter Lévinas, je dirais, de l'espace ontologique, où en fait ça conduit à une certaine violence, à l'espace éthique, c'est-à-dire la rencontre d'autrui. Et c'est ça qui m'a ébloui chez Lévinas, c'est qu'il reste intangiblement un philosophe classique, mais avec ce supplément d'âme qui fait que l'introjection de l'éthique à travers le visage et la rencontre d'autrui, eh bien, change tout. Et c'est pas un hasard aujourd'hui si ce philosophe est peut-être le plus lu, le plus commenté à travers le monde, parce que, en fait, d'une certaine manière, il propose à travers sa philosophie une certaine unité entre ontologie, bien sûr, mais surtout l'éthique. Et il va jusqu'au bout. C'est-à-dire que pour lui, il y a un renversement de l'ontologie au profit de l'éthique. Et pour résumer sa pensée, d'une certaine manière, c'est ce que je dis aussi à mes propres étudiants, pour bien faire comprendre Lévinas, il disait « après vous, monsieur, après vous, madame ». C'est-à-dire réfréner l'ardeur de son égo pour faire toute place à l'autre. Et je trouve ça magnifique.
Alors justement, le titre « La brisure de la coque », est-ce que ce n'est pas une autre métaphore de ce fameux visage d'autrui lévinassien qui dit que finalement, autrui est plus important que soi?
Absolument.
Alors il l'a très bien formulé dans « Selon les dix commandements, la mort d'autrui, tu ne tueras point », qui est le début de l'attention portée à l'autre. Donc la brisure de la coque, est-ce que c'est ça?
Alors ça peut être ça aussi. Hein. Ma référence, elle était plutôt, je dirais, autour d'une réflexion chassidique, c'est-à-dire cette brisure de la coque comme la brisure, en quelque sorte, d'une carapace qui fait que ça laisse entrer des étincelles en soi. Mais en vérité, votre réflexion est fort juste, parce que cette brisure de la coque, c'est quoi? C'est que, au fond, enfermé dans notre monade, et comme le dit Lévinas, sans porte et sans fenêtre, la rencontre du visage de l'autre, c'est-à-dire son apparaître, son épiphanie, fait que effectivement il y a une injonction éthique, c'est-à-dire en fait une propension à me sentir responsable pour lui. Pourquoi cela? Parce que, et c'est ça qui est beau, c'est que en fait le visage renvoie à cette injonction, tu ne tueras point, et le visage renvoie à ceci d'extraordinaire, c'est que dans le visage, eh bien, surgit la trace de la veuve, de l'étranger et de l'orphelin, en référence à la Torah. Mais, d'une manière plus simple encore, c'est que le visage laisse passer cette trace de la finitude, cette trace de la vulnérabilité, bref, cette trace où, comme le dit Lévinas, le visage est une misère. Et comme soignant, et je ne cesse de dire à mes propres étudiants, en fait, l'éthique précède le soin. L'éthique précède le soin en référence à Lévinas. Pourquoi? Parce que face au visage de l'autre, mais le visage, il ne faut pas le voir comme un visage, ça renvoie à la singularité de l'autre, à l'unité de l'autre, et bien à ce moment-là, je dirais que, évidemment, je me sens responsable parce que, en fait, il y a une injonction éthique qui fait que, en fait, d'une manière naturelle, eh bien, arrive ce que j'appellerais l'empathie pour lui. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire aussi que briser la coque de l'ego, hein, c'est une formulation que vous employez, eh bien, fait entrer de l'autre en soi, jusqu'à faire que cet autre ait préséance sur moi. Et là, on est vraiment dans la définition du visage de l'autre.
Absolument.
Chez Lévinas.
Absolument, c'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, là où Lévinas, je dirais, fait une sorte de césure avec la philosophie classique, comme vous l'avez du reste indiqué vous-même dans votre ouvrage, à travers, je dirais, le lien qu'il a avec Chouchani, c'est que précisément, en réalité, alors que jusqu'à lui, on était dans le royaume de la métaphysique, dans le royaume de l'ontologie, eh bien non. Je dirais qu'avec Lévinas, c'est l'humain avant toute chose. L'humain avant toute chose. Et je voudrais expliquer quelque chose que vous connaissez, mais pour que nos amis qui nous écoutent puissent bien comprendre aussi sa pensée. C'est que, en référence, par exemple, à Spinoza, Spinoza avait posé son fameux Conatus Essendi, qui signifie que, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un être, si ce n'est un être qui persévère dans son être, et ce, jusqu'à l'ultime seconde de sa vie. C'est-à-dire que l'être, il a toujours soif de développement de son être. Or, à contrario de ça, Lévinas s'oppose à cette formulation, parce que pour lui, en fait, quand il écrit, par exemple, « Autrement qu'être » ou « Au-delà de l'essence », ça signifie que pour lui, développer son être conduit à une violence, et que pour lui, son plaidoyer, c'est de dire « Non, il faut se désintéresser, c'est-à-dire enlever de l'être, de manière, en fait, à se retirer de son égotisme pour laisser toute place à l'autre. » Et c'est ça qui est magnifique, c'est que d'une certaine manière, eh bien, je dirais que là, encore une fois, comme vous l'avez pointé aussi dans vos différents ouvrages, eh bien, on est en plein dans la tradition juive qui fait que, en réalité, qu'est-ce que c'est que cette tradition? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend tout simplement à être sensible à l'humanité de l'autre. Tout simplement. On ne peut pas être juif tout seul. On est juif relié, mais relié, je dirais, dans le sens du bien que je veux te faire. C'est ça, Lévinas.
Alors, très précisément, hein, on en arrive aussi à une nuance qui est apportée par la lecture de votre ouvrage et à vous entendre aussi, on le ressent aussi, c'est que finalement, l'œuvre de Lévinas peut être quelque chose de thérapeutique.
Oui.
On voit qu'elle n'est pas seulement cathartique pour vous, mais curative pour les maux de l'âme ou les maux du corps. Et on comprend pourquoi, finalement, cet essai n'est pas seulement une explication philosophique de l'importance éthique chez Lévinas, mais une sorte de trait d'union entre vous, lui, et puis les patients.
Oui, mais tout à fait. Mais c'est formidable. Vous avez parfaitement compris, je dirais, la quintessence de l'objet de cet essai. C'est que, en fait, c'est une nourriture. C'est une nourriture, mais c'est pas une nourriture dans le sens de la connaissance. C'est une nourriture dans le sens de l'élévation, et je dis ça très modestement, mais de l'élévation de l'esprit dans le sens, encore une fois, de l'éthique. Parce que, en réalité, si je regarde bien, eh bien, Lévinas, il est aussi, je dirais, un donneur, enfin, pas un donneur, mais il propose une sorte de leçon à la communauté médicale. Et la leçon, c'est précisément de faire en sorte que notre regard porté sur l'autre, sur le patient, ne soit pas un regard qui soit, comment dirais-je, un regard seulement anatomique, mais que derrière ce sujet, eh bien, il y a une âme, bien sûr, il y a un sujet qui a besoin de notre empathie pour, en fait, donner toute... on peut dire toute la densité de son humanité. Et dans ce sens-là, quand vous prenez comme référence le fait qu'il peut être, en quelque sorte, thérapeutique, j'aime pas trop ce mot, mais disons, oui, il peut apporter un certain apaisement, une certaine sérénité, parce que il nous invite, en fait, à une relation avec autrui qui en passe par, je dirais, l'effacement, en quelque sorte, de sa propre personnalité. Et la référence que je fais, il y a un chapitre, et je dois beaucoup à quelqu'un qui a été un maître pour moi, je voudrais le citer, c'est Marc-Alain Wecknin, qui lui avait repris les travaux du rabbi Itzhak Luria, et en particulier avec cette notion de tzimtzoum. Eh bien, la notion de tzimtzoum, c'est quoi? C'est une notion de retrait. Retrait, c'est-à-dire retrait par rapport à l'autre, dans la proximité à l'autre, qui fait que je m'efface pour lui laisser toute place. Or, si on regarde bien la position de soignant, elle devrait être celle-là. C'est ça à quoi nous invite Lévinas. Or, bien souvent, on a affaire, il faut le dire, à des praticiens qui sont ivres de leur ego, qui n'écoutent pas leurs patients, ou très peu, ça peut arriver, et qui recouvrent surtout leurs patients de leurs propres paroles. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut s'effacer pour laisser toute place à l'autre. Et dans ce sens-là, je dois dire que c'est vrai. J'ai, on peut dire, allez, 40 ans de lecture de Lévinas, eh bien, d'une certaine manière, ça me conforte, ça m'apaise. Et je dirais que c'est pas une lecture, on fait pas une lecture de Lévinas, et vous le savez très bien, Sandrine. Mmh. C'est un travail que l'on fait. C'est-à-dire que combien même j'ai lu et relu des passages du temps et de l'autre, de l'existence à l'existant, de l'humanisme de l'autre homme.
Il faut quand même, oui, il faut le préciser, hein, c'est une lecture très exigeante,
c'est très compliqué, tout le monde le dit.
Hein.
Mais il faut l'apprendre, je suis dans le métro, j'ai mon crayon, j'annote, je mets des petites notes en marge, etc. Parce qu'à chaque fois, c'est une lecture qui est renouvelée, qui demande à nouveau... Une interprétation, un éveil de la pensée, parce que c'est pas simple.
Mais un peu comme un commentaire talmudique.
Mais exactement,
on
c'est la même chose.
Du visage d'autrui, évidemment, le visage, ce n'est pas uniquement le visage sur le
bien
corps,
sûr.
C'est surtout quelque chose qui nous est irréductiblement autre.
Absolument.
Alors, et d'où la question qui s'impose, une lecture quasiment quotidienne depuis 40 ans, est-ce que dans votre pratique, eh bien, vous avez prolongé cette lecture? Est-ce que en tant que soignant, eh bien, vous utilisez certains concepts de la méditation?
Alors, je l'utilise, bien sûr, je dirais beaucoup, dans la mesure où, dans mon métier, vous avez rappelé que j'étais ostéopathe psychosomaticien, eh bien, effectivement, dans mes cours, j'ai par exemple un cours d'éthique et j'ai un cours de relations et de communication en dehors de l'ostéopathie psychosomatique, il est évident que je nourris à mon tour mes étudiants en leur recommandant, évidemment, de travailler sur ces textes. Parce que, en fait, on est au cœur de la relation humaine. C'est ça, c'est pas compliqué. Il nous donne les clés, il nous donne des pistes simplement pour, allez, j'ose le dire, pour être un peu meilleur face à l'autre. C'est beau ça, non?
C'est magnifique. Alors vous citiez un instant votre ami et maître,
oui.
Marc-Alain Wachnin, qui vous a fait ce cadeau,
oui.
De préfacer votre essai.
Oui.
C'est aussi un grand lecteur d'Emmanuel Levinas. Et puis il écrit précisément, je le cite, « Un livre de lecteur sur la lecture précisément, sur la lecture d'un autre lecteur, Levinas, disciple et maître, au cœur donc de la transmission, nous parlant de la vie qui se transmet de manière exigeante par la rigueur de l'éthique comme souci et responsabilité » pour l'autre. Et on arrive finalement à votre sous-titre, hein, le sous-titre de votre livre, une transmission éthique du dire dans l'œuvre de Levinas.
Oui.
Tout de la parole à l'acte finalement.
Alors, de la parole à l'acte. Alors, soyons clairs, il faut aussi un bémol. Il faut aussi un bémol. Et le bémol, je le mets dans l'essai, c'est-à-dire qu'en réalité, Levinas, il va très loin. Hein. C'est-à-dire que face à l'autre, il parle de la condition d'otage et il va même dire de l'incondition d'otage. C'est-à-dire qu'en réalité, il est responsable de la responsabilité de l'autre. Et que, en fait, celui qui va, en quelque sorte, refuser cet état de choses, et il le dit clairement, c'est Benny Levy, dans son de mémoire Benny, il le dit dans les dialogues avec lui, parce que Benny Levy le dit, et je m'inscris aussi un peu dans sa pensée, c'est que quand on est mal soi-même, quand on est violenté soi-même, qu'on est en proie à un chagrin épouvantable, enfin la perte d'un proche, etc., comment faire à ce moment-là pour donner toute préséance à l'autre, alors que soi-même, comme le dit Benny Levy, on est enfermé dans le bet setarim, c'est-à-dire c'est l'espace de la solitude absolue. C'est une sorte d'enfermement, une sorte de tombeau personnel. Et là, à ce moment-là, ça ne fonctionne plus. Et c'est vrai que... Alors, j'ai réfléchi à ça. Et il me semble, et je crois que vous allez peut-être être d'accord avec moi, c'est que pour bien se faire comprendre quelquefois... Il faut être un petit peu caricatural, il faut pousser le bouchon très loin, de manière à ce que celui qui reçoit cet enseignement puisse garder quelque chose. Et il me semble que Levinas, il a peut-être joué cette partie-là. C'est-à-dire, bon, il savait qu'il avait des oppositions, mais comment tu peux aimer l'autre alors que, en fait, l'autre est indifférent à ton égard, voire hostile à ton égard. Et Levinas répondait, peu me chaud, c'est son affaire à lui, c'est pas la mienne. Moi, je le laisse passer avant, je lui donne une place, même s'il ne m'aime pas. Le seul problème, c'est qu'il y a un moment où, quelquefois, on est tellement mal soi-même que ça ne peut pas fonctionner. Et là, je dirais que c'est le petit bémol, mais peut-être que, effectivement, encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais Levinas voulait se faire comprendre et peut-être qu'il caricaturait un peu pour... On garde un peu de sa substance.
Ou peut-être aussi, et ça va dans le sens de ce que vous dites, c'était une sorte de graal, de but à atteindre,
voilà.
Une direction.
Exactement, oui, c'est bien vu, c'est exactement ça. Comme oui, une tension vers, comme un idéal à atteindre. Et en ce sens-là, bravo votre remarque, parce qu'en ce sens-là, Levinas s'inscrit dans un messianisme. Un messianisme. Et là, je dirais que Chouchani...
Et toujours
il y a un lien avec Chouchani aussi, là.
Il est jamais loin.
On en parlera un jour, tous les deux, dans mon émission.
Avec grand plaisir. Oui. Alors, nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwarz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom, en compagnie de Claude Boschurberg, qui est l'auteur de l'essai La brisure de la coque, ou une transmission éthique du dire dans l'œuvre de Lévinas, qui reparaît aujourd'hui chez CD Éditions. Il y a les concepts, il y a aussi une certaine réalité. Est-ce qu'on peut dire que la parole peut suffire à briser la coque ?
Non, justement, non. Non, c'est parce que, en fait, et ça, c'est la... qui suis-je pour... Je ne suis pas dogmatique, hein, simplement, c'est pas moi qui vais parler, là. Je laisse la place à la tradition juive. Qu'est-ce que nous enseigne la tradition juive ? Elle nous enseigne que, en fait, la lecture, le travail sur les textes, bon, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut aussi, tout simplement, une application. C'est-à-dire, c'est le rôle des mitzvot. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on le sait, la tradition, elle requiert, je dirais, quelque chose de charnel de la part, du sujet. C'est-à-dire, en fait, un sujet d'étude, certes, un sujet qui, en fait, va appliquer des mitzvot, et dans le sens... de cet essai autour de Lévinas, j'ai un chapitre là-dessus. Est-ce que la parole est suffisante pour briser la coque ? Ce serait trop court. Ce serait trop court. Sauf que, et là, encore une fois, on va faire une nuance, c'est qu'elle serait capable de briser la coque, mais d'une manière partielle. C'est-à-dire qu'en fait, transportée par une lecture, transportée par la nourriture d'une parole, d'un kidam, qui est qu'on pourrait appeler une autorité ou un sujet supposé savoir dans le sens psychanalytique, eh bien, ça peut faire un effet de fissuration de son être pour que, d'une manière éphémère, partielle, on puisse être mieux, enfin, je dirais, on puisse être plus ouvert, plus empathique pendant un certain temps. Mais est-ce que ça va durer ? Non. Parce que, en fait, tout cela doit participer d'un travail. Être juif, c'est aussi, entre guillemets, une sorte de travail que l'on fait en remettant, je dirais, toujours le cœur à l'ouvrage. Hein. Et de même que, et je finis là-dessus, c'est que la tradition nous apprend quoi ? Elle nous apprend que, en fait, pour faire l'unité, il ne suffit pas d'être simplement dans le recède. Le recède, la charité, l'amour. Mais ça, c'est pas suffisant. Il faut aussi le din, il faut aussi l'intellectualité, il faut aussi la réflexion, la rigueur. Et c'est entre le din et le chesed que, disons, on a plus de chances de marcher sur nos deux jambes au lieu d'une seule patte.
Alors, comment vous définiriez le registre de cet essai ? Est-ce que c'est un livre philosophique qui nous aide à mieux comprendre un philosophe ? Est-ce que c'est un livre avec des incidences finalement biblico-talmudiques ou un essai qui pourrait aider vos élèves dans leur pratique thérapeutique ? Ou les trois à la
non,
fois ?
Non, c'est un essai, encore une fois, modeste. C'est l'essai de quelqu'un qui est un homme, en fait, se pose une vraie question. C'est quelqu'un qui est passionné par cette lecture de Lévinas, qui a été ébloui, mais simplement parce que, en fait, j'ai aussi découvert un maître qui m'avait mis en chemin pour cette lecture, et je me pose cette question, est-ce qu'il est capable de me changer ? Mais je n'ai pas fait œuvre ni de philosophe, ni de... je dirais que ça renvoie à ce que tout un chacun peut faire comme expérience autour d'un auteur. Bon, c'est Lévinas, mais ça aurait pu être également, et je voudrais les citer, Yankelevitch, par exemple. Hein.
Alors justement...
ce sont des gens, parce qu'on va croire que je suis obsédé, que je ne lis que Lévinas, mais non, tous les matins que Dieu fait, je choisis dans ma bibliothèque un ouvrage simplement qui va m'accompagner. Ça peut être Yankelevitch, ça peut être Twakin, ça peut être Edmond Jabès, ça peut être aussi des auteurs que j'aime beaucoup, des auteurs psychanalytiques, ça peut être aussi Sandrine Schwarz quand elle écrit sur Lévi Valencin, qui est un ouvrage magnifique, ça peut être aussi Fascinant Chouchani. Voilà, c'est ça mon quotidien.
Alors c'était la question que j'allais vous poser, oui. Parce qu'on ne voit pas que le nom de Lévinas à vous lire. Il y a Descartes, Spinoza, oui. Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, donc la grande tradition des philosophes, oui. Les figures de la tradition juive, vous l'avez cité, le kabbaliste Isaac Luria, mais aussi des passeurs entre les deux traditions, Jérusalem et Athènes, Catherine Chalier,
oui.
André Néer.
Magnifique Catherine Chanier, bien sûr.
Marc-Alain Wachnin.
Oui.
Alors, finalement, est-ce qu'il est possible, en une ou deux phrases, de savoir quel message à retenir qui aurait été délivré par Lévinas?
Alors, le message à retenir de Lévinas, c'est tout simplement un appel, simplement pour se dégriser. C'est un appel pour nous éveiller à la conscience de l'autre, en quittant, je dirais, sa monade, en quittant son enfermement. Mais en même temps, je dirais, et je finirai là-dessus, c'est que, en fait, j'ai parlé de ce que je peux enseigner auprès des étudiants. Mais je dirais, et vraiment j'y tiens, c'est que Lévinas m'a beaucoup aidé aussi dans mon action de mémoire. Parce que, en réalité, Lévinas, quand il fait ce travail, cette réflexion majestueuse autour de l'éthique, ça renvoie aussi à la mémoire, parce que travailler sur la mémoire, c'est en plein travailler sur l'éthique, bien sûr, de manière à ce que, en fait, on lutte contre l'oubli et que, en fait, on soit toujours apte à réhabiliter et à défendre la mémoire des victimes. Je voudrais simplement rappeler que le combat des Klarsfeld, Serge et Beate Klarsfeld, auxquels vous savez, pour lesquels je suis très attaché, ce n'est rien d'autre qu'un combat éthique. Et dans ce sens-là, la lecture de Lévinas, elle nous aide à réfléchir.
Alors, une lecture de Lévinas, on l'a dit, exigeante, parfois hermétique. Beaucoup s'y sont cassés un petit peu les dents. Alors finalement, pour rentrer dans l'œuvre, est-ce que c'est pas mieux de commencer par la brisure de la coque nous donne finalement quelque chose d'assez concret aussi, des enseignements sur le quotidien avec cette question éthique, et puis la question qui est sous-jacente, donc finalement à qui s'adresse votre essai?
Je suis très très sensible à ce que vous dites, mais ça me ferait trop d'honneur. Non, je comprends votre réflexion, parce que en fait, comme le dit Wachnin dans la préface, au fond c'est un modeste ouvrage, mais il a une portée initiatrice. Donc l'idéal, voulez-vous que je vous dise, ce serait de commencer par Le temps et l'autre, de 1947, parce que à ce moment-là, Lévinas sort de Stalag, comme vous le savez, deux ans avant, et il va se monter au Quartier Latin avec Jean Val, il ne faut pas l'oublier, avec Yankelevitch, ce collège international de philosophie, et il va dans Le temps et l'autre, qui est un petit livre de Chevrin, d'une cinquantaine de pages, de tout petit livre, il va poser les grandes étapes de sa philosophie. Et si on a le bonheur de travailler sur Le temps et l'autre, et peut-être la brisure de la coque, c'est magnifique. Juste un truc à vous dire qui m'a rempli de bonheur et de fierté. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps, parce que figurez-vous que je fais partie d'un séminaire de recherche en psychanalyse à Necker depuis une vingtaine d'années, comme psychosomaticien et comme ostéopathe. Et on m'a fait l'honneur, il n'y a pas si longtemps, de demander à ce que je fasse un topo autour du temps et l'autre. Je l'aurais fait. Mais en même temps, ils avaient mis au travail la brisure de la coque dans le cadre du séminaire. Et j'ai eu le plaisir de mon vivant de voir effectivement des personnes tout à fait honorables qui, en fait, ont interprété mon ouvrage.
Alors, qui explique aussi que votre ouvrage et votre réflexion passent entre différents domaines, elle est pluridisciplinaire, et c'est ça qui est intéressant.
Ça fait des ponts, bien sûr.
Alors, il y a une question classique, mais néanmoins difficile, pour conclure cette émission. Si vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de se procurer votre ouvrage et de le lire, qu'est-ce que vous leur diriez?
Je vais être présomptueux, mais ça me vient comme ça. Il y a cette blague que raconte Yankelevitch, mais j'ai envie de dire presque la même chose avec mon livre. C'est que Yankelevitch se trouve dans un taxi, et le taxi engage la conversation avec lui, et lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, Yankelevitch lui dit, je suis professeur de philosophie. Alors, le chauffeur du taxi lui dit, mais à quoi ça sert la philosophie? Yankelevitch répond, ça sert pas à grand chose, mais en fait, il vaut mieux mettre le nez dedans plutôt que de ne pas le faire. Et j'ai envie de dire modestement, on peut passer à côté de la brisure de la coque, mais ce serait dommage de passer à côté.
En tout cas, nous, on recommande vivement, chaleureusement aux auditrices et aux auditeurs de lire cet ouvrage. Je rappelle son titre, La brisure de la coque, ou une transmission éthique du dire dans l'œuvre de Lévinas, donc qui est signé de Claude Bochurberg, et c'est vraiment un joli petit ouvrage à se procurer, pourquoi pas à offrir aussi pour les fêtes de Hanouka qui arrivent. À très bientôt, Claude,
merci,
et merci de votre présence. Au revoir.